Bienvenue, chers amis à l'écoute, pour un nouveau passage de la vie de Saint François. François priait dans la chapelle de Notre-Dame des Anges lorsque éclata un violent orage. L'air était lourd et étouffant. Une atmosphère de four où ne bougeait pas une feuille. Les frères s'agitaient sur leur couche sans trouver le sommeil. Sans cesse, l'éclair tailladait le ciel noir derrière les monts. François, ruisselant de sueur, était absorbé en Dieu et demandait pardon pour les péchés des hommes. L'orage approchait de plus en plus. Brusquement, un grand vent se leva qui fit hurler et craquer les arbres. Le ciel s'ouvrait et se fermait comme une gueule de feu et de flamme. Mais la pluie ne venait pas. Seules des colonnes de sable chaud passaient en tourbillon fou et le tonnerre secouait le monde. François levait des yeux suppliants sur la Madone qui, dans les éclairs, semblait s'allumer et s'éteindre tour à tour. « Pardon, pardon » implorait-il d'une voix rauque. Et soudain, comme dans une gloire de 1000 éclairs fondus ensemble, il vit, au-dessus de l'autel, une belle apparition. Dans une nuée d'anges diaphanes, pareils à des millions de soleils, Jésus rayonnait avec sa mère. Et la voix musicale de Dieu chanter aux oreilles et dans l'âme de François. Que veux-tu que je fasse pour le secours des pauvres pécheurs ? François sanglotait de pur bonheur. Mais que devait-il répondre ? Que dire quand Dieu vous demande quelque chose de cette façon à brûle-pourpoint ? Pourtant, sa supplique monta comme à son insu. Ô Dieu, mon Seigneur, pardon pour tous ceux qui, après s'être confessés en bon repentir, visiteront cette église. Pardon. Et il levait les bras vers Jésus et la Vierge. Jésus regarda sa mère comme pour la consulter. Elle fit signe que oui, et alors il entendit que c'était bien, mais qu'il devait d'abord en parler au pape. Il quitta l'église en courant, et dehors, dans le vent brûlant, et parmi la danse des éclairs, « Frère, frère » cria-t-il. Et dans l'orage furieux qui ne parvenait pas à crever en averse, il conta d'une voix aiguë ce qu'il venait de voir et d'entendre. Il ne se possédait plus. Il embrassa frère Genièvre, frère Jacques, saisit Masséo. « Viens, viens, allons tout de suite trouver le Saint-Père. Il est justement à Pérouse. Et je ne reviendrai pas que j'ai obtenu l'indulgence. » Il entra avec Masséo dans le bois, sous le fracas de l'orage qui s'éloignait. Peu à peu, le matin envahit le ciel, mais la chaleur de four pesait toujours aussi étouffante. Une foule compacte se presse devant le palais papal. Que se passe-t-il ? Le pape est mourant. La fièvre chaude d'avoir mangé une orange vénéneuse. Le mal est contagieux. Demain, toute la ville sera alitée. Les deux frères se regardèrent déconfits. Que faire ? Que le pape soit malade ou non, nous devons le voir. Ils se frayèrent un passage à travers la foule. Tout à coup, une clameur monta de partout. « François, le saint mendiant !» La foule s'écarta devant lui comme d'instinct. Dans les corridors, dans la cour, Dans les chambres, c'était un va-et-vient affairé, un chuchotement mystérieux de cardinaux, d'évêques et de prélats. Le pape n'était pas encore mort, et déjà ils intriguaient au sujet du nouveau pape. Là-bas, à la porte de la chambre du malade, se tenait un petit groupe de prélats, tandis qu'un d'eux regardait par le trou de la serrure. « Est-ce ici la chambre du Saint-Père ? » « N'entrez pas, mon fils, dit le prélat guetteur. Sa maladie est contagieuse. Les médecins qui l'assistent ont consigné sa porte. » « S'il n'y a pas de danger pour les médecins du corps, il y en a encore moins pour ceux de l'âme. Notre Seigneur Pape a un plus grand besoin de notre remède que de leur fiole. » Et François entra. Entre deux gros cierges, sur un lit élevé, le pape était étendu avec des linges mouillés sur son front brûlant de fièvre. Contre sa poitrine, il serrait fortement un crucifix comme un glaive. Les trois docteurs étaient occupés à chercher un remède plus efficace dans de gros livres et sur une table couverte de fioles. François alla s'agenouiller dans un coin. Puis il s'approcha du lit et baisa la main chaude du malade. Le pape ouvrit les yeux. Un long moment, il fixa d'un regard incrédule ce petit moine maigre couvert de poussière. Lui, habitué à ne voir autour de lui qu'homme vêtu de brocart, et il cligna des yeux. Il reconnaissait maintenant François, et il eut un sourire, le pape. Il voulut parler, mais n'y réussit point. « Je viens prier pour vous, dit François. » Le pape sourit de nouveau, et une larme coula de ses yeux qui se refermaient, lasse. Ce grand pontife, qui avait gagné tant de batailles, et fait trembler tout le monde, mourait là, solitaire, abandonné de ceux qui lui devaient leur grandeur. Ils avaient peur. Seul ce moine chétif, avec dans ses haillons l'odeur de la paille et des grottes, venait s'asseoir à son chevet et lui tenait la main. François priait, la main du pape dans les siennes, une main dont le pouls battait de fièvre comme un marteau. Et ce silence avec ses rideaux mi-clos et ses tapis où les pas s'étouffaient. De temps en temps, la porte craquait et dans l'entrebâillement apparaissait la tête d'un cardinal qui, la main devant la bouche et le nez, venait prendre des nouvelles. À part cela, rien ne bougeait. Ainsi s'écoulait le temps. François priait pour la rémission des péchés du pape, un homme aussi hélas. Tout à coup, François frissonna. Il remarqua qu'il tenait une main froide comme un glaçon. Il se redressa brusquement. Le pape était mort, un sourire aux lèvres. Le même soir encore, le cadavre qui dégageait une brutale odeur nauséabonde fut porté à l'église en grand apparat avec des flambeaux et des chants à travers les rues surchauffées. Tout le monde se boucha le nez au passage. La chaleur demeurait suspendue comme une malédiction. Le lendemain matin, on cria alarme. La nuit même, des voleurs avaient dépouillé le corps du mort de ses riches habits et de ses joyaux. Ils avaient arraché le crucifix d'or de ses mains, les bagues de ses doigts, les souliers de cuir rouge de ses pieds, son manteau brodé, tout. Le cadavre gisait presque nu, en pleine décomposition. François, qui, au premier cri d'alarme, courut à l'église, couvrit le pape de son manteau. Et ainsi se fit-il que par peur du fléau, qui à cause de ses chaleurs excessives eut pu dépleuper toute une province, on enterra en hâte le pape, hier encore brillant comme le soleil. On l'enterra, vêtu comme un pauvre frère mineur. Mon Dieu, ayez pitié du dernier venu de nos frères mineurs, pria François sur la tombe. Le soleil ardent à rendre fou, cette mort soudaine, la peur d'être contaminé, ce vol sacrilège et en outre les intrigues politiques autour de l'élection d'un nouveau pape, car en ville comme au palais l'intrigue travaillait, tout cela ensemble avait tellement excité le peuple qu'on pouvait craindre une révolte, ce qui fit précipiter l'élection. Le lendemain, la tombe du prédécesseur étant à peine fermée, le nouveau pape était déjà connu. Honorius, un homme simple à qui personne n'avait pensé, un pacifique, un juste, qui avait donné aux pauvres son immense fortune. Une âme de frère mineur, pensa François, tout heureux. Il ne tergiversa point. Le jour suivant, il était agenouillé devant le pape et comptait, comme lui seul savait le faire, avec le feu de l'âme, avec la musique du cœur, sa vision et ce que Jésus lui avait dit. Le pape écoutait, les cardinaux écoutaient. Le pape était très favorable, mais les cardinaux faisaient l'amour. Le pape, lui, était enthousiaste. Son âme simple trouvait sublime ce qu'il apprenait là. Mais un pape ne fait pas toujours ce qu'il veut. Par exemple, il trouva que le privilège demandé était un peu fort et il demanda des précisions. François étendit les bras. « Ce que je vous demande, Saint-Père, ne vient pas de moi, mais de notre Seigneur qui m'a envoyé vers vous. » Ce cri jaillit comme une flamme, et le pape, transporté, « Eh bien donc, dit-il, soit, au nom de Jésus-Christ, oui. » Mais alors les cardinaux protestèrent. « Ce n'est pas possible. L'indulgence accordée à la croisade n'aura pas de succès, et la croisade tombe à l'eau du même coup. Qui voudra encore aller à Jérusalem quand on peut gagner les mêmes faveurs en visitant simplement une église? À ce compte, tout le monde peut venir solliciter des indulgences. » Ils auraient voulu que le pape reprît sa parole. Il n'en fit rien. Mais il n'était point têtu. Ces cardinaux, somme toute, étaient aussi des prêtres, et sur leur conseil, il décida que l'indulgence ne pourrait être gagnée qu'un jour par an, au jour anniversaire de l'institution. François s'inclina, plein de reconnaissance, et s'enfuit. « Mais, simple colombe, s'écria le Saint-Père, vous n'en avez pas d'acte écrit. »« Votre parole suffit, jubila François. Je n'ai pas besoin d'autres preuves. La Sainte Vierge est le contrat, le Christ le notaire, les anges les témoins. » Et il sortit en dansant. Je veux vous faire entrer tous au ciel, avait-il crié au peuple ce deuxième jour d'août où la petite église fut consacrée par sept évêques. Ah, que ne pouvait-il la crier partout sur les toits, la nouvelle de la grande indulgence. Il y renonçait à cause de la dispute qui divisait les prélats sur cette question. C'était beau pourtant, ces milliers d'hommes et de femmes qui, de l'aube au soir, faisaient la queue, avançant pas à pas pour obtenir dans cette église la rémission de leurs péchés. Noblesse, clergé, pauvres, tous s'avouaient ainsi pécheurs. Quelle belle humiliation! François avait constamment aux yeux des larmes de bonheur. Parmi ses visiteurs, il y avait aussi un cardinal nommé Hugolin, un neveu du pape précédent, homme célèbre par son érudition, féru d'ordre et de discipline. Comme il fut saisi en voyant enfin la grande pauvreté dont il avait déjà si souvent ouï parler. Il vint serrer la main de François et secouant sa tête maigre. « Quelle place Dieu nous donnera-t-il au ciel » dit-il, ému, « à nous qui passons nos jours dans le luxe et les délices. Si je peux faire quelque chose pour votre ordre, comptez sur moi. » Lorsque brilla à l'ouest la pure étoile du soir, François vint, le dernier de tous, s'agenouiller dans l'église pour demander pardon de ses péchés. Des voix célestes chantaient autour de son front, et il écoutait, et il pleurait pour toute cette beauté et cette bonté que Dieu répandait sur lui et sur les hommes. Seigneur, je suis confus que ce soit de moi, ver de terre, que vous vous serviez comme d'un vase pour verser sur les hommes votre amour. Thank you. son cœur battait à la pensée du prochain chapitre. « Tu verras, dit-il au frère Léon, qu'ils me jugeront trop simple et trop petit, qu'ils ne voudront plus me connaître et me chasseront. » Hélas, soupira Léon, bien des choses ont changé depuis qu'il est venu se joindre à nous tant de savants. Ils étaient au moins 3000 frères assis en demi-cercle pour écouter son sermon. Sans élan, les jambes molles, il monta dans la chaire de bois, pâle comme chaud et lourdement soucieux. Jour et nuit, il avait dans sa grotte songé aux paroles qu'il dirait pour garder entre tous la charité et la paix. Et maintenant qu'il était là-haut, il ne les avait pas encore trouvés. Il frissonna, ses yeux implorés levés au ciel. Chacun sentait le moment grave. Il se fit un silence d'absence et de solitude. On n'entendait rien que le chant des oiseaux dans les arbres. Et tandis qu'il se torturait à la recherche des bonnes paroles, il écoutait les oiseaux. Au-dessus de leur concert, il entendait, comme autant de petites fontaines musicales, crissoler les alouettes. Ah, l'alouette, son ami! Un sourire naquit sur ses lèvres, et avec ferveur, il se mit à parler de l'alouette à ses milliers de frères. Écoutez-la, mes frères, l'alouette, notre oiseau à nous, l'oiseau des frères mineurs, elle porte un capuchon comme nous. Elle vit si humblement qu'elle cherche sa nourriture au bord du chemin ou sur le fumier. Mais quand elle vole, elle monte haut, droit vers le ciel, dans l'élan de son ardent désir, et chante le lot de Dieu, doucement et gaiement, comme de pieux frères mineurs dont la pensée est plus souvent au ciel que sur la terre, et qui n'aiment rien tant que de louer Dieu. Le plumage de l'alouette, qui a la couleur de la terre, nous apprend à revêtir des habits non point précieux et brillants, mais simples et naturels. Ah, mes frères, elle nous apprend la simplicité et la pauvreté. La pauvreté, trésor si noble, si divin, que nous ne sommes pas dignes de le porter en nous. Elle est cette céleste vertu qui piétine toutes les choses terrestres et périssables, devant laquelle reculent tous les obstacles à la pureté de l'âme, pour que, dépouillée et libre, elle puisse s'unir au Dieu éternel. La pauvreté, c'est la vertu qui fait converser ici-bas l'âme avec les anges. François s'élança en esprit vers l'infini. Ses paroles jetaient des étincelles comme un feu céleste dans le cœur des frères. Les voilà vaincus. Les critiques, émus, contrits, pénétrés à nouveau comme d'un chant et d'une bénédiction de cette charité qui, somme toute, avait été dans leur cœur le premier désir de se faire pauvre. Il y en avait dont les mains, devant leur face penchée, se mouillaient de larmes. Après régnait de nouveau la belle fraternité des premiers jours, où il n'était encore qu'une poignée. Mais comme ils étaient si nombreux à présent, François devait céder quelque chose. Il avait toujours été le berger qui gardait les brebis réunies. Désormais, ce lui était impossible, ils étaient trop. Ils étaient dispersés si loin dans les bois et les montagnes, et les savants amenaient la confusion. Impossible de sortir de là. Il devait s'adjoindre d'autres bergers. Un guide pour chaque province, une espèce de ministre qui, à la place de François, entretiendrait le bon esprit parmi les frères dispersés. C'était périlleux pourtant. Les supérieurs ont leurs idées chacun. Fatalement, la simplicité primitive y perdrait. Le jeune printemps de l'ordre se fanerait. Certains religieux pleurèrent en l'apprenant, mais François mit les points sur les i. « Être supérieur, dit-il, ne consiste pas à jouer au Seigneur et au Maître, mais à être le bon pasteur de l'Évangile, ressembler à une mère qui prend soin de ses enfants, à notre Seigneur qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Celui qui, par sa faute, laissera périr une brebis, et ses yeux lancer des éclairs, en rendra compte devant Dieu. Celui qui aurait à se plaindre viendra me trouver. Car, à la règle, pas un mot ne sera changé. La peur le pinçait au cœur, le chagrin s'infiltrait en lui, une lézarde se montrait dans son œuvre. Mais il ne perdit point courage. « Dieu sait pourquoi, » dit-il. Non, il ne se découragea point. Au contraire, il exposa même un grand projet. Son rêve était « Toute l'humanité doit connaître et aimer Dieu. » Lui-même, par deux fois, avait pris le chemin des Maures. Enthousiaste, il cria que la lumière de Jésus devait rayonner partout sur les hommes. Donc, nous fonderons des provinces dans les autres pays. Cette idée fut applaudie frénétiquement. Qui veut porter la joie à l'Espagne? Des centaines de doigts se levèrent. Qui à l'Allemagne? De nouveau, plus de 100. Qui aux Hongrois? Encore plus qu'il n'en fallait. Qui en Syrie chez les Maures? Alors, personne ne leva le doigt. Par respect. Chacun savait le désir de François et ses échecs. On pensait qu'il lèverait le doigt lui-même. Il n'en fit rien. Dieu ne le voulait pas là. Qui veut aller chez les Maures? Tout le monde se tut. Qui veut aller chez les Maures? Demanda-t-il une troisième fois. Alors Élie se leva. Qui eût jamais pensé cela d'Élie? Lui, réputé un des plus violents partisans de la réforme. Il se tenait debout, le doigt levé, avec ce calme et ce sourire mystérieux dans sa barbe. François ne savait s'il devait être triste ou heureux. Il admirait Élie et le craignait. Il dut se faire violence pour proclamer « Frère, Élie ira chez les Maures ». Alors, 100 autres doigts se levèrent. François fut touché de l'audace et du zèle de tous et il s'écria « Et moi, j'irai en France ?» Le pays où notre Seigneur est le plus honoré dans son corps. De nouveau une masse de doigts levés, la joie et l'enthousiasme montés. Aventure, imprévue, envie d'opérer de grandes choses, attrait de l'inconnu, tout cela soufflait un vent frais dans les esprits et les cœurs. « Frères, cria-t-il, lorsque vous serez en route, deux à deux, vers vos lointains ermitages, ou les pays lointains, gardez le silence et priez, comme si vous étiez dans vos cellules. Car où que nous soyons, nous portons toujours notre cellule avec nous. Le corps est notre cellule, et l'âme est l'ermite qui l'habite pour y prier et penser à Dieu. » Avant de partir pour la France, il alla, avec frère Masséo, à Rome, pour y implorer sur le tombeau des apôtres force et bénédiction. Chemin faisant, comme ils avaient mendié dans une petite ville, ils étaient assis une fois près d'une source dans la campagne solitaire. L'eau de la source était claire comme le jour et froide comme la nuit. Elle sortait de dessous terre et coulait avec une chanson entre les roches et les fleurs. Sur une pierre blanche, s'étalait la nourriture mendiée. Ils avaient quêté chacun de son côté et, ainsi en va-t-il chez les hommes, Masséo, parce qu'il était grand et fort, avait reçu beaucoup, de belles tranches de pain bien beurrées. Mais à François, qui avait l'air d'un vrai va-nu-pied, on n'avait jeté que de maigres reliefs. Les deux parts voisinaient comme un valet près d'un roi. François était radieux. Masséo avait l'air triste. Il était dans un mauvais jour. Cela peut arriver à tout le monde. Pourquoi riez-vous? Demanda Masséo. Parce que nous sommes si heureux. Heureux? Vous trouvez? Assurément. Regarde le soleil, cette eau, cette nourriture, un trésor dont nous sommes indignes. Mais mon père, dit Masséo incrédule, comment pouvez-vous parler de trésor quand nous sommes pauvres au point de manquer de tout? Nous n'avons ni nappe, ni couteau, ni plat, ni assiette, ni maison, ni servante. C'est notre trésor de manquer de tout cela, s'écria François, car rien ici n'est réglé de main d'homme. C'est la providence divine qui nous procure tout. Regarde donc, frère Masséo, ce pain mendier, cette belle pierre blanche, notre table et cette eau claire et fraîche. Qu'y a-t-il de plus beau? C'est pourquoi je tiens à ce que nous prions, afin que Dieu nous fasse aimer du fond du cœur la sainte pauvreté à laquelle il s'est assujetti de sa naissance à sa mort. Au nom du Père, et ils prièrent. Masséo fut tourmouillé par ces paroles. Il y goûtait le Saint-Esprit. Ils mangèrent de bon appétit. Ils burent l'eau froide dans le creux de leurs mains et ils se sourirent. Les moineaux vinrent prendre leur part du festin. Chers amis, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui, mais nous retrouverons Saint François très bientôt.